Merci pour ta présence dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu de culte. Merci pour ta présence dans les lieux célestes où tu règnes. Tu as dit que tu répandais ton Saint-Esprit sur toute chair. Et nous le croyons, Seigneur. Et nous voulons le vivre. Alors, Seigneur, si je puis dire, sois au travail par ton Saint-Esprit dans nos cœurs, afin que les paroles que nous allons écouter se gravent dans ce cœur. Qu'elles ne soient pas des paroles qui s'envolent aussi vite qu'elles sont venues, mais qu'elles se gravent, Seigneur. Parce que les paroles de l'Écriture sont faites pour guider tes enfants, chacun de tes enfants que tu aimes, Seigneur. Alors merci de ce que tu fais maintenant dans nos cœurs. Amen. Amen. Je vais lire trois passages aujourd'hui. Le premier, c'est dans Lévitique, au chapitre 16, Lévitique chapitre 16, les versets 6 à 17. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau pour le péché, il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau pour le péché, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et deux pleines poignées de parfums aromatisés en poudre. Il portera cela au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'est. Il fera sept fois avec son doigt l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple. Il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause de l'impureté des Israélites, de leurs crimes et de tous leurs péchés. La deuxième lecture, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, les versets 8 et 9. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et en Romains 3, les versets 24 à 26, donc je prends le verset 23, car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voici le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice. Pour ce message, je me suis largement inspiré d'un livre que j'aime particulièrement, de Watchman Nee, un livre qui s'intitule « La vie chrétienne normale ». Si vous pouvez consulter ce livre, vous verrez que j'ai pris des passages entiers de ce livre, non pas pour plagier, mais parce que je pensais que je ne pouvais pas dire mieux que ce que Watchman Nee avait écrit. À moins d'avoir été enseigné sur le sujet que je vais traiter maintenant, les chrétiens ne font pas souvent de différence entre l'œuvre qu'opère le sang de Jésus dans notre relation avec Dieu et l'œuvre qu'opère la croix de Jésus. On parle du sacrifice de Jésus sur la croix, grâce auquel les hommes qui ont foi en ce sacrifice et en Christ, bien sûr, sont sauvés. Alors, assurez-vous, je ne vais pas vous dire ce matin que vous êtes dans l'erreur si vous pensez cela. Je veux simplement montrer par des textes bibliques que même si on ne peut pas dissocier le sang et la croix, on ne doit pas les confondre, car ils opèrent deux œuvres différentes et complémentaires dans le processus du salut que Dieu offre aux hommes. En quoi consiste cette différence? En ceci: le sang efface nos péchés, tandis que la croix de Christ nous délivre de notre nature pécheresse. Le 21 février 2016, donc, j'ai commenté le texte qui nous parle de la croix de Jésus à laquelle Dieu nous associe. C'est le texte suivant. Nous savons que notre vieille nature a été crucifié avec lui, avec Jésus, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce texte est clair. La croix nous libère de notre nature pécheresse. Je signale que vous pouvez réécouter ou écouter ce message qui se trouve donc sur le site de l'Église et puis aussi sur mon blog. Alors aujourd'hui, nous allons regarder de plus près les textes qui nous parlent du sang. Dans Lévitique 16, que je vous ai lu, nous lisons que le jour du grand pardon, le sang des animaux était recueilli et apporté dans le lieu très saint, pour y être répandu sept fois devant l'Éternel. Le Seigneur avait ordonné que personne n'entre dans le tabernacle, sauf le souverain sacrificateur. Et lui seul faisait l'aspersion du sang devant l'Éternel. L'expression « devant l'Éternel » est répétée cinq fois dans le texte que je vous ai lu. Pourquoi ? Pour montrer que le sang versé pour l'expiation des péchés est avant toute chose pour Dieu. C'est Dieu qui demandait cela. Le sang était donc en premier lieu pour lui, Dieu. Alors, pour avancer dans la compréhension de cette idée qui n'est pas si facile que ça à admettre et qui pourtant est indispensable à comprendre, je citerai un autre texte de l'Ancien Testament. C'est dans Exode 12, 13. Donc ce texte nous parle de l'annonce de la dernière plaie d'Égypte. Voilà ce qu'il dit. Je suis l'Éternel. Le sang sur les maisons où vous habitez vous servira de signe. Et il ajoute, je verrai le sang. Je verrai le sang et je passerai outre. Et le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Le sang était mis sur le linteau et les montants des portes, c'est-à-dire à l'extérieur de la maison. Les habitants ne le voyaient donc pas. Le sang était là uniquement pour que Dieu le voie. Et parce que Dieu voyait le sang de la victime, ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la maison étaient sauvés. Le souverain sacrificateur de Lévitique 16, c'est une figure du Seigneur Jésus dans son œuvre rédemptrice. Hébreux 9, 11, 12 le dit vraiment clairement. Voilà ce qu'il dit ce texte. Mais Christ est apparu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a pas été construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et après nous avoir acquis une rédemption éternelle, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, en offrant non pas le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang. Le souverain sacrificateur était le seul qui pouvait accomplir cette œuvre. Personne d'autre ne pouvait s'approcher et pénétrer dans le sanctuaire. De plus, il n'y entrait que pour accomplir un seul acte. Il présentait à Dieu le sang comme une offrande qui lui était agréable à Dieu et en laquelle Dieu trouvait sa satisfaction. C'était une transaction entre le souverain sacrificateur et Dieu, dans le secret du lieu très saint, loin du regard des hommes, qui pourtant devaient en bénéficier. L'Éternel demandait cela. Le sang est donc en premier lieu pour lui. La sainteté de Dieu, la justice de Dieu, demande qu'une vie sans péché soit donnée pour l'homme. La vie est dans le sang, et ce sang doit être versé pour moi à cause de mes péchés. C'est Dieu qui le demande pour satisfaire sa justice. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang d'un animal innocent qui était versé devant Dieu par le grand prêtre. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est notre grand prêtre. Et c'est lui qui offre son propre sang. Et le sang de Christ satisfait pleinement Dieu. Nous savons tous combien il est important d'avoir une conscience libérée du poids du péché dans notre relation avec Dieu. Dès que nous perdons la paix de notre conscience, notre foi commence à faiblir. Et nous le savons, nous avons du mal à nous approcher de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut que nous comprenions la valeur toujours actuelle du sang. En effet, c'est par le sang que nous pouvons à tout instant nous approcher de Dieu. Le sang de Jésus ne perd et ne perdra jamais son efficacité. C'est par la foi au sang de Jésus que nous pouvons entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Comprenons bien ce que cela veut dire. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur rien d'autre. Nous ne pouvons nous appuyer sur rien d'autre pour nous approcher de Dieu. Nous ne pouvons pas invoquer le fait que nous avons été particulièrement aimables et patients durant la journée, ou que nous avons fait des grandes choses pour le Seigneur, comme prier pendant plusieurs heures peut-être, ou donner une grosse somme à l'Église. Méfions-nous d'une forme d'orgueil spirituel, souvent inconscient d'ailleurs, qui nous ferait croire que c'est sur la base de nos mérites que nous pouvons nous approcher de Dieu. Non, frères et sœurs, nous ne pouvons nous approcher de Dieu que grâce au mérite de Christ, c'est-à-dire à son sang versé pour nous. Même si nous avons fait des progrès dans la foi, et quand bien même nous en ferions encore de plus grands, ce sera uniquement et jusqu'à la fin, sur la base du sang de Christ, que nous pourrons nous approcher de Dieu. Nous pouvons être faibles dans la foi, mais ce n'est pas en regardant notre faiblesse que nous deviendrons forts. Ce n'est pas en sentant notre misère et en faisant pénitence que nous serons rendus saints. Aucune aide ne peut être trouvée en restant dans cet état d'esprit. Alors, approchons-nous de Dieu en lui adressant cette prière. Seigneur, je ne connais pas pleinement la valeur du sang, mais je sais que le sang t'a pleinement satisfait. C'est pourquoi le sang me suffit. Il est mon seul recours. Je le comprends maintenant. Que j'ai progressé ou non, que je sois parvenu à quelque chose ou non, je ne pourrai jamais me présenter devant toi sur une autre base que celle du sang précieux de Jésus. Après cette prière, frères et sœurs, notre conscience sera réellement libre devant Dieu. Il y a un autre problème que je voudrais soulever. Il arrive que Satan nous persuade que certains de nos péchés ne sont pas pardonnables. C'est une de ses stratégies favorites pour que nous nous sentions coupables. Et beaucoup de chrétiens le croient, qu'il y a des péchés qui ne sont pas pardonnables. Cela les laisse dans le désarroi et les prive de la liberté que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Si vous vous êtes laissé piéger par ce mensonge, écoutez la promesse de 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, comme Jésus est lui-même dans la lumière, si nous sommes en communion les uns avec les autres, si nous marchons dans la lumière, comme Jésus lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et la phrase qui est importante à bien graver, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, c'est-à-dire de chaque péché. Grand péché, petit péché. Péchés qui peuvent être très noirs et péchés qui semblent n'être pas aussi graves. Péchés que je pense pouvoir être pardonnés et péchés qui me paraissent impardonnables. Oui, tous les péchés, conscients ou inconscients, ceux dont je me souviens et ceux que j'ai oubliés sont contenus dans ces mots, chaque péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de chaque péché. Et il peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'en premier lieu, le sang de Jésus satisfait Dieu. Frères et sœurs, écoutez bien ceci. Puisque Dieu, qui voit tous nos péchés, peut les pardonner à cause du sang de Jésus, quelle base d'accusation reste-t-il à Satan ? Aucune. Lorsque Satan nous accuse, Dieu lui montre le sang de son Fils bien-aimé. C'est la réponse suffisante contre laquelle Satan n'a aucun recours. Aucun. Écoutez ce que dit Paul en Romains 8, 33, 34. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui condamnera? Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, quelle doit être notre attitude à l'égard de Satan? Cette question est importante car l'ennemi nous accuse non seulement devant Dieu, mais aussi dans notre conscience. Tu as péché et tu continues de pécher. Tu es faible et Dieu ne peut strictement rien pour toi. Voilà les pensées que Satan essaye d'imprimer dans notre esprit. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes tentés de regarder en nous-mêmes pour essayer de nous défendre contre lui et chercher dans nos sentiments ou notre conduite une raison de croire que Satan a tort. Ou bien nous sommes tentés de reconnaître notre faiblesse et tombant dans un extrême, dans l'autre extrême, de céder au découragement ou au désespoir. Il nous fait voir nos péchés et cherche à nous en accuser devant Dieu. Et dès que nous acceptons ces accusations, nous nous laissons abattre. Alors la question légitime est la suivante. Pourquoi acceptons-nous si facilement les accusations de Satan ? Eh bien, c'est parce que nous espérons avoir quelque justice en nous. Si tel est le cas, la base de notre espérance est mal fondée. Satan a ainsi atteint son but et nous resterons accablés par notre faiblesse. Mais si nous avons appris à ne mettre aucune confiance dans notre chair, dans la chair, nous ne serons pas étonnés lorsque nous péchons, car la nature même de la chair, c'est péché. c'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés à connaître notre vraie nature et à voir combien nous sommes impuissants, que nous avons encore de l'espoir en nous-mêmes et que nous sommes écrasés dès que Satan vient nous accuser. Eh bien, frères et sœurs, voilà la bonne nouvelle. Dieu a le pouvoir de régler la question de nos péchés. Il a ce pouvoir. Mais il ne peut rien faire pour un homme abattu par les accusations de Satan. Pourquoi ? Parce qu'un tel homme ne met pas sa confiance dans le sang de son Fils. Le sang parle en sa faveur, mais lui, il prête l'oreille à qui ? À l'accusateur, à Satan. Alors notre salut consiste à tourner nos regards vers le Seigneur Jésus et à voir que le sang de l'agneau a fait face à la situation créée par nos péchés. Non seulement il a fait face à cette situation, mais il l'a résolue. C'est là le surfondement sur lequel nous sommes. N'essayons jamais de répondre à Satan par notre bonne conduite, mais toujours par le sang de Jésus. Oui, nous sommes pécheurs, mais le sang nous purifie de chaque péché. Et Satan n'a plus aucune base pour nous attaquer. Quelle libération ce serait pour chacun de nous si nous discernions mieux la valeur qu'a aux yeux de Dieu le sang précieux de son Fils. Tu peux parler à chacun de tes enfants ce matin, Seigneur, encore. Bien au-delà des mots, Seigneur. Et par ton Saint-Esprit, fais entrer la compréhension profonde de ce que les textes de ta parole nous disent. Pour que nous ne nous laissions plus jamais impressionner par les accusations de l'ennemi de notre âme, mais qu'aussitôt, Seigneur, que nous voyons les attaques venir, nous puissions avoir devant nos yeux spirituels le sang que Jésus a versé à la croix, et que nous sachions, Seigneur, que toi, son Père, tu es satisfait par ce sang-là. Amen.